Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, ça va bien, mais
on, a
on un, est, mais... je sais pas, on est comme, je sais pas, fébrile ou inquiet, ou, mais on n'a pas peur du ridicule. Alors, vous allez pouvoir y aller à fond la
ça,
caisse,
c'est une
comme
grande
on
qualité,
dit.
Qualité, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Avec votre qui sont-ils? Alors, je répète ce que j'ai dit en début, puis après ça, je vais vous laisser la parole. Alors, vous avez dit, on connaît leur nom sans savoir qui ils sont. Alors, on entre dans le monde de la découverte et on vous suit aveuglément.
Ben oui, ben il est de ces individus, français et vivants, qu'on connaît sans les connaître, n'est-ce pas, dont on utilise fréquemment le nom, sans même savoir très souvent qu'il s'agit de personnes qui ont déjà vécu. Je vous donne un exemple. Le préfet de la Seine des années 1880, qui a passé une ordonnance obligeant les propriétaires d'édifices parisiens à fournir à leurs locataires des boîtes fermées pour entreposer les ordures en attendant qu'elles soient ramassées plutôt que de jeter le tout n'importe comment. Il s'appelait Eugène René
Poubelle. Ça voilà. Va. Celui-là, on est bon.
Voilà, je pense que vous avez compris le concept. Mais aujourd'hui, on va aller à la rencontre de quelques-uns de ces individus qui sont passés à la postérité d'une manière semblable. J'ai regardé les prévisions de la météo pour les prochains jours. On nous annonce 21 degrés Celsius pour lundi, ou 70 Fahrenheit, si vous comptez encore en Fahrenheit. À chaque bulletin de météo, on rappelle le souvenir de scientifiques du 18e siècle. Anders Celsius était un astronome et physicien suédois. Il devient professeur d'astronomie à l'Université d'Uppsala en Suède à l'âge de 29 ans, comme son père l'avait été avant lui. Il y a des scientifiques partout dans sa famille. Il voyage à travers l'Europe, visite tous les observatoires du continent, il s'intéresse aux aurores boréales, à la forme de la planète Terre, mais la météorologie pique aussi sa curiosité. Et il invente un thermomètre avec une échelle où l'eau bout à 0 degré et se solidifie à 100 degrés. Donc, son échelle sera inversée.
Je pense que c'est l'inverse.
Ouais. C'est ça, son échelle a été inversée après son décès pour la rendre plus facile à utiliser. D'ailleurs, il est décédé très jeune de la tuberculose, à 42 ans seulement. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a une eau qui gèle à 0 Celsius et qui bout à 100, et non le contraire.
Ah, phew.
Mais on vous suit, hein?
Oui,
là,
j'ai eu peur tout d'un coup.
Oui, c'est ça. Non, vous êtes très réactif. C'est très bien. C'est ça qu'il faut. C'est une échelle, donc, de 0 à 100 qui est plus facile à comprendre et à retenir que celle inventée par Daniel Gabriel Fahrenheit, un physicien et inventeur né en Pologne dans une famille allemande. Il fabriquait et vendait des instruments météorologiques, dont des thermomètres à alcool qui utilisaient l'échelle de température florentine, qui est aujourd'hui tombée dans l'oubli. À force de travailler sur ces appareils, il va se rendre compte que les thermomètres au mercure donnent de bien meilleures lectures que ceux à alcool. Il va raffiner une autre échelle, celle d'un astronome danois qui s'appelait Ole Christiansen Rømer. Et c'est ce qui va donner les degrés Fahrenheit qu'on utilise encore aujourd'hui dans une poignée de pays, dont le Libéria, les îles Caïmans, la Micronésie et, étrangement, les États-Unis d'Amérique. Et si vous vous posez la question, c'est le 1er avril 1975 qu'on est passé des Fahrenheit au Celsius au Canada. Ça a donc fait 50 ans, il y a quelques semaines.
Pourquoi étrangement?
Oui,
c'est ça, Yvan l'a dit, là, mais très, très doucement. Là,
Trump n'était même pas président à cette époque-là.
Non, c'est ça sa sous-question.
Mm-hmm. Oui, ben en fait, il n'y a pas de raison particulière pourquoi les États-Unis utilisent encore le système impérial, et on le voit, ça a été délaissé par pratiquement tout le monde. Puis là, je le dis en tout respect pour les îles Caïmans et la Micronésie, mais bon, c'est des pays très mineurs sur l'échelle mondiale, donc la superpuissance américaine parle encore en Fahrenheit et en pouces et en pieds. C'est un peu étrange, puis bon, je pense que ça reflète beaucoup l'espèce de fierté qu'ont les Américains d'être différents, puis de ne pas faire comme tout le monde. Nous autres, on fait à notre manière, on n'essaye pas d'imiter personne, et ce serait probablement très, très difficile. D'ailleurs, je pense que personne s'est essayé récemment, essayer de les faire passer au Celsius. Je pense que ce serait une politicienne qui voudrait faire ça, se casserait probablement les dents là, sur l'idée de l'exceptionnalisme américain.
Ils ne gagnent pas les élections, c'est sûr.
Je ne pense pas que c'est une proposition gagnante. Une question qu'on peut se poser. Comment une cantatrice australienne, peut-elle avoir un dessert aux pêches et à la crème glacée et un type de biscotte nommé en son honneur? Mais c'est l'exploit qu'a accompli Ellen Porter Mitchell, une soprano colorature qui a fait carrière sous le nom de Nellie Melba. Ah. Elle est née en banlieue de Melbourne, d'où lui est venue l'idée de son nom de scène en 1861. Voilà, Melba comme Melbourne. Elle a chanté sur toutes les scènes du monde, partageant notamment l'affiche avec la grande Albany, cantatrice née à Chambly sous le nom d'Emma la Jeunesse, qui était une autre des stars opératiques de l'époque. Aujourd'hui, elle est peut-être mieux connue en tant qu'inspiratrice de la pêche Melba, donc ce dessert fait de pêche, de crème glacée à la vanille et de coulis de framboise. De même que de la toast Melba. Et ça, je ne sais pas si c'est très populaire pour les jeunes générations, n'est-ce pas? Soit les grissoles, les biscuits gobelus, ça appartient peut-être à une autre époque, mais la toast Melba doit aussi son nom à Dame Nellie Melba. Et pour répondre à la question que je posais il y a un instant, si on veut avoir plusieurs mets qui portent son nom, ben ça aide lorsqu'un illustre cuisinier français faisait partie de nos fans. C'est Auguste Escoffier qui a créé la pêche et la toast Melba alors qu'il travaillait à Londres où Melba a beaucoup chanté.
Est-ce qu'il était sérieusement en lien avec cette chanteuse? Oui, c'est ça. C'est pas juste qu'il l'écoutait puis ça lui a inspiré ces mets-là?
Ça aurait été créé directement pour elle. La pêche Melba lors d'un grand gala tenu en son honneur. Puis la toast Melba, à un moment donné, où elle était malade et elle avait besoin de trucs qui se digéraient facilement, selon ce qu'on raconte là. Et puis ça, bon, c'est pas nécessairement coulé dans le ciment, mais c'est l'origine qu'on donne à ce mets et à ce... J'ai dit deux mets tout à l'heure. Une toast Melba, c'est pas vraiment un mets, mais on ce que je veux dire.
Mais, en tout cas, mais, nous, on vous croit, là. Je veux dire, quand vous nous dites quelque chose...
Mais c'est vrai, quand on est malade, on mange des toasts Melba, c'est vrai, ça?
Biscuits soda.
Voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est très populaire auprès du plus jeune segment de notre auditoire, mais enfin, bref. Il y a probablement une forte proportion des gens qui nous écoutent qui ont des plats Tupperware et ou des pots maçons dans leur cuisine. Mais encore là, ce sont des individus qu'on connaît sans les connaître. Earl Tupper. Qui est un Américain, qui est un inventeur, un patenteux, qui s'est fait engager dans les années 1930 dans une usine de plastique. Il a racheté des machines usagées de son employeur et met la main sur des lots de plastique fabriqués par la compagnie DuPont, qui espérait que des inventeurs comme Tupper seraient en mesure de trouver des débouchés pour des matériaux qu'on avait inventés pour un usage militaire. Et Tupper invente une gamme de plats refermables qui ne se vendent pas très bien jusqu'à ce qu'une mère divorcée du Sud qui s'appelait Brownie Wise commence à vendre des produits Tupperware lors de démonstrations à domicile dans les années 1950. C'est vraiment là que la compagnie, que la marque Tupperware a pris son envol. Madame Wise est devenue vice-présidente de la compagnie avant d'en être congédiée lorsque Earl Tupper a commencé à trouver qu'elle lui faisait de l'ombre. Et les pots-maçons, pour leur part, ont les droits à un ferblantier du New Jersey qui s'appelait John Landis Mason, qui a obtenu un brevet pour ce type de pot avec couvercle refermable sur le principe de ce qu'on a aujourd'hui en 1858. Et si chez nous, on a pris l'habitude de dire « maçon », il faudrait vraiment les appeler les pots Mason pour honorer le travail de John Landis Mason. Et dans un même ordre d'idées, les drains français, n'est-ce pas, système de drainage pour détourner l'eau des fondations d'un bâtiment, selon plusieurs sources, ça s'appelle un « French drain » en anglais, parce que le concept a été énoncé et popularisé par un inventeur et politicien américain. Il a servi comme secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis. Il a été président d'université. Il s'appelait Henry Flagg French.
Celui-là, vous êtes allé le chercher loin.
Ah ben oui, mais c'est de là que viendrait le terme « French drain ». Donc, la bonne traduction, ce serait d'appeler ça un drain de French, à la French. Mais au Québec... Parce que d'après ce que j'ai pu lire, ça ne s'emploie pas ailleurs dans la francophonie. On a décidé de traduire et d'appeler ça un drain français. Donc, si vous en avez un chez vous, peu importe, je vous conseille d'avoir une petite pensée pour M. French, si on ne donne pas le crédit qui devrait lui revenir, tout comme on ne donne pas le crédit qui devrait revenir à John Landis Mason, etc. Et bon, j'aurais pu continuer longtemps. Il y a quand même plusieurs exemples de ces noms-là qui sont passés dans l'usage, mais je trouve ça toujours intéressant de voir, parce que c'est des mots qui sont devenus, parce que bon, un pot maçon, c'est pas la compagnie maçon qui les produit, c'est vraiment devenu un nom générique d'un produit vendu par toutes sortes de compagnies. Donc, ce sont des noms propres qui sont entrés dans l'usage et un peu comme Jeanne-René Poubelle, on les honore régulièrement sans même savoir que c'est ce qu'on fait.
Exactement. Pour en revenir au French Drain, là, est-ce que comment on traduit ça en français pour vrai, là, pas la québécoise, mais est-ce que vous le savez?
D'habitude, on semble juste dire un drain ou un drain d'assainissement ou la notion de français, ça semble d'être vraiment québécois, d'après ce que j'ai pu lire.
Bien, c'est un peu dans notre façon de faire, de traduire intégralement des expressions anglaises dans notre langage québécois. Il y en a beaucoup.
Là, j'ai plein d'expressions avec French, mais je ne dirais pas, là, mais...
Retenez-vous un peu.
Je pense que je sais à quoi vous faites référence. Je ne peux pas vous dire si ça a été inventé par un monsieur qui s'appelait French. J'ai pas l'impression, mais...
ça aurait pu.
Bien, on vous remercie beaucoup, en tout cas, Marcel, d'avoir été indulgent. Je vous avoue que Yvan et moi, on se préparait à être obligés à vous répondre à certaines questions.
On a lu des encyclopédies toute la semaine.
On a été stressés tout le temps qu'on a préparé l'émission. Alors là, on est vraiment soulagés.
On fait ouf.
Bon, ben, je suis désolé de vous avoir causé ce genre d'anxiété. Là, c'est pas mon objectif.
Malgré tout, on aimerait que vous soyez là la semaine prochaine.
Oui, s'il vous plaît.
Ça me rassure.
Alors, bonne semaine, Marcel, et merci.
À vous aussi.